Je reste une maman. Hein. Voilà, c'est les aléas de la vie de maman. Hein, on reste parents. Mais je suis très, très heureuse et honorée d'être là ce matin, de partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, je vais citer mes sources, parce que le Seigneur m'a parlé notamment au travers d'un livre qui s'appelle « Impunissable ». Et c'est le titre de mon message qui va s'afficher. Vu l'heure, je pense pas que je vais tout faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je veux vraiment me laisser conduire par le Saint-Esprit et prendre le temps de vous transmettre ce qu'il a mis sur mon cœur. Et puis, s'il faut, bah, vous aurez la suite dans 2 semaines. Je prendrai la place de mon mari. Et ce matin, je voulais vous partager donc des révélations que le Seigneur m'a fait depuis 2 ans. À travers ce livre, mais aussi des enseignements, et puis voilà, c'est ma relation dans ce que je vis avec lui, par rapport à notre rapport à la punition. Alors, ce n'est pas un thème qui fait peut-être rêver, vous dites de quoi elle va nous parler, quel est le rapport, mais en fait, c'est important de nous questionner sur notre rapport à la punition en tant qu'enfant de Dieu et à l'autorité, et de réaliser comment ça peut affecter nos vies, nos relations, nos familles et l'Église et notre travail, enfin toutes les relations qu'on peut avoir. Et en fait, mon but, c'est vraiment que, à travers, bah, voilà, ce que je vais vous partager, que le Saint-Esprit vous aide à peut-être réaliser des mensonges, des fausses croyances qu'on a tous par rapport à ça, par rapport à Dieu, et surtout, une fois qu'on a dénoncé, une fois qu'on a réalisé ça, d'être renouvelé dans notre intelligence et pour être transformé par le Saint-Esprit. Amen. Si tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi et qu'il a pris sur lui la punition qui devait retomber sur nous et le châtiment qu'on méritait à cause de nos péchés parce qu'on était séparés de lui, et donc, grâce à ça, tu peux vivre en communion avec le Père. Je pense que la plupart d'entre nous ont fait cette expérience-là. Et bien, en fait, à partir de ce moment-là, notre façon de concevoir le péché, à la fois nos propres péchés, mais aussi les péchés de ceux avec qui on vit, et bien, cette perspective-là, cette façon de voir ça, et bien, ça doit changer. Et ce changement, il doit s'opérer quand on rencontre Jésus. Mais j'avais envie de vous poser une question, et vous n'allez pas y répondre, enfin, vous y répondez dans votre tête. Comment on réagit en étant honnête quand les autres autour de nous font des erreurs? Et particulièrement quand on est impacté par les erreurs qu'ils font. Il y a quelques jours, il y a eu si vous avez suivi un peu l'actualité, il y a eu l'opposant à Poutine qui a été assassiné en prison. Et je suis tombée sur la prise de parole de sa femme suite à ça. Et les mots qu'elle a dit, ça a été « il faut que Poutine soit puni, il faut que le coupable paye ». Et je peux que comprendre la colère, la tristesse, le deuil de cette femme et l'injustice qu'elle subit. Mais ces mots, ça a été ça. La première prise de parole qu'elle a eue. Et bien souvent, en fait, quand les autres vont faire des erreurs, quand les autres vont commettre une injustice, quand on va être offensé, on va se positionner en tant que juge et on va se sentir légitime, en fait, pour les punir. Alors peut-être qu'on n'est pas en position d'autorité pour exercer la justice humaine, mais en tout cas dans nos pensées, si on est honnête, on va tous dire, bah, lui, il faut qu'il meure, lui, il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait, etc., etc. Et j'avais envie de vous dire quelque chose ce matin, qui, la première fois que je l'ai entendu, ça m'a un petit peu choquée, c'est que Dieu n'a pas de problème avec le péché. Et la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Dieu, il n'aime pas le péché. Dieu, il a horreur du péché. Et puis, en fait, la personne qui m'a dit ça m'a dit non, Dieu, il n'a pas de problème avec le péché. Nous, on a un problème avec le péché, mais Dieu, il n'a pas de problème avec le péché. En fait, Dieu, il a déjà réglé le problème du péché. À la croix, Jésus, il a reçu toute la colère que Dieu avait envers le péché. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a fait mourir. Il y a même des études, j'avais fait une recherche il y a quelques années sur la crucifixion de Jésus, qui a été, et sa mort, sa souffrance, son agonie, a été de courte durée, ce qui a interpellé, par rapport aux preuves qu'on a dans la Bible, dans les écrits de la Bible, ce qui a interpellé les scientifiques, parce que normalement ça aurait dû durer beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça que les soldats romains ont finissé en brisant les jambes des autres crucifiés pour mettre fin à leur souffrance, parce que c'était tellement long, l'agonie. Mais Jésus, ils n'ont pas eu à faire ça. C'est pour ça qu'il y a cette parole qui dit « Aucun de ses os ne sera brisé », parce qu'il était mort avant. Parce que c'était le poids du péché qu'il avait fait mourir. La colère de Dieu a été apaisée. 1 Jean 2, verset 2. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc on voit que le problème du péché, il a été réglé une fois pour toutes. Alors, si le péché a été réglé, que reste-t-il qui doit être encore puni? Puisque Dieu a pourvu au sacrifice ultime par Jésus, il a pris la colère, Jésus a pris toute la colère de Dieu envers le péché, ça a été réglé. Mais alors, est-ce qu'il y a encore du péché qui reste, qui doit être puni? Non. Non, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Alors s'il n'y a plus de péché qui doit être puni, qui en est nous pour punir les autres? Qui je suis moi pour te punir? Qui es-tu toi pour me punir? Et j'avais envie qu'on se pose la question ce matin, à quoi ressemblerait notre vie sans la punition? Si on renonçait à la punition, à la menace de la punition pour contrôler les autres, pour avoir l'illusion qu'on contrôle les autres, parce qu'en fait, on ne peut pas se contrôler, on ne peut pas contrôler les autres, la seule personne qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. Et si on arrêtait d'utiliser cette illusion pour exercer notre autorité? En tant que leader, mais aussi en tant que parent, dans notre travail, on est forcément amené à être, un jour ou l'autre, en position d'autorité sur quelqu'un. Et souvent, on a tendance à considérer notre rôle comme, une fois que les choses nous échappent et ne vont pas comme on avait prévu qu'elles aillent, eh ben, je vais pouvoir exercer mon autorité en exerçant mon pouvoir pour soumettre les autres à ma volonté, les punir s'il faut, les menacer pour qu'ils rentrent dans ce que moi j'ai prévu. Et c'est bien souvent en fait ce qui va nous être un petit peu la force motrice dans notre vie. Et ça, c'est on en est conscient ou pas, hein. Il y a des moments où on en est conscient, il y a des moments où on réalise, et puis il y a d'autres moments où c'est tellement ambiant dans notre culture, c'est pas que dans l'église, c'est dans la société, c'est sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, les médias, on voit ça, en fait, cette mentalité de chercher un bouc émissaire, punir le coupable, tout le temps. Et c'est intéressant on a vu que Dieu avait réglé le problème du péché et de la punition par le sacrifice de Jésus. Nous, on est enfants de Dieu, on a rencontré Jésus, on a bénéficié de sa grâce pour nous, on a eu notre peine qui a été remise, que Jésus a pris pour nous. Alors comment on explique ce décalage entre ce que Jésus a fait à la croix, et on est tous au bénéfice de ça. On est tous au bénéfice de ça, et on peut l'être si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Il y a une invitation, c'est sa grâce, on l'a chanté ce matin. Mais comment on explique ce décalage entre ce que Jésus a fait à la croix et la façon dont on se comporte? Et pour ça, on va revenir un petit peu en arrière, dans le jardin d'Éden, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Dans Genèse 1, Dieu crée le ciel et la terre, et Adam et Ève, et on voit que tout ce qu'ils connaissent, Adam et Ève, c'est la bonté de Dieu. Chaque jour où Dieu a créé le ciel, la terre, etc., jour 1, jour 2, après chaque jour, il a dit « c'est bon ». Il a déclaré par sa parole « c'est bon ». Et quand il a créé l'homme et la femme, il a dit « c'est très bon ». Donc, Adam et Ève, ils sont là dans le jardin, en intimité, en connexion avec Dieu, et tout ce qu'ils connaissent, c'est la bonté de Dieu. Ils baignent dans la bonté de Dieu. Et Dieu donne à Adam une règle, une seule règle. Alors, on peut se poser la question, mais s'ils sont libres, pourquoi ils ont une règle? Ça paraît complètement opposé comme idée. En fait, c'est pour avoir un choix. Si tu n'as pas de choix, tu n'es pas libre. Si tu ne peux pas choisir, tu n'es pas libre. Mais la vraie liberté, c'est celle où tu peux choisir. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse même ne pas le choisir. C'est incroyable. C'est ce que je dis souvent à mes filles. Je dis, mais l'amour, c'est libre. Si tu forces quelqu'un à t'aimer, c'est pas de l'amour. L'amour et la liberté, ça va ensemble. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse libres, même de le repousser. Mais c'est aussi pour avoir un législateur. Un législateur, c'est-à-dire quelqu'un qui décide des règles. Adam, c'est pas lui qui a décidé de cette règle. Et c'est peut-être ça, là, ce qui le différencie de Dieu. Et en fait, quand il décide de faire ses propres règles, c'est-à-dire de se détourner de ce que Dieu lui dit et qu'il enfreint la règle de Dieu, en fait, il y a un changement à ce moment-là qui s'opère. Il y a un changement de gouvernement, il y a un changement de législateur et il se place sous une autre autorité. Et en fait, il y a un changement de paradigme qui s'opère. Et il fait alliance avec un nouveau gouvernement, le gouvernement de la peur et de la honte. Et en fait, c'est important de réaliser qu'à partir de ce moment-là, Adam, il vit dans la peur et il ne voit plus Dieu comme il le voyait. Avant ce moment-là, tout ce qu'il voyait de Dieu, c'était sa bonté, c'était son amour. Et à partir de ce moment-là, son regard change, ses lunettes changent, et il est dans la peur. Genèse 3, verset 10, « J'ai entendu, quand Dieu l'appelle, Adam, où es-tu ? J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, et je me suis caché. » C'est la peur et la honte qui tout d'un coup arrivent. Et en fait, à cause de ce moment-là, la seule façon dont je peux voir Dieu maintenant, c'est à travers les yeux de mon nouveau maître. Et mon nouveau maître, il a peur du Père. Parce qu'il le voit comme un punisseur, comme quelqu'un dont je dois me cacher, quelqu'un qui va me chercher à me... Oui, me punir pour ce que j'ai fait, qui va... Vous savez, on parle souvent de cette image de Dieu père fouettard, mais c'est ça, c'est exactement ça. Tout d'un coup, le rapport que j'ai à Dieu, à ce moment-là, change. Le rapport que Adam avait à Dieu a changé complètement. Il était en communion, en relation avec lui, et tout d'un coup, il a ce rapport qui est complètement différent, de peur, de honte, de méfiance. Et en fait... On est tous avec cet héritage-là. Et on peut, même quand on devient enfant de Dieu, on peut continuer à lire la Bible avec ses lunettes. Dieu est un punisseur. Et vous savez, quand, après la chute, Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Et on peut lire ce passage en se disant, bah, c'est Dieu qui les punit, parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Mais en fait, c'est un acte de miséricorde et de protection. Parce que s'ils restaient dans le jardin et qu'ils prenaient l'arbre de la vie, ils allaient demeurer dans cette condition éternellement. Donc ce n'est pas une punition, c'est une protection. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui protège, qui pourvoit. Et Dieu ne voulait pas que ses créatures demeurent séparées de lui. Le cœur de Dieu, ce n'était pas ça. Il était tellement attristé, il a dit « Non, je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas les laisser comme ça. » C'est pour ça qu'il les a chassés du jardin. Et en fait, dans ce, si tu peux afficher le tableau après, Ben, s'il te plaît. Merci. Quand on est dans ce paradigme de la punition, en fait, à partir du moment où Adam et Ève ont choisi d'écouter le serpent, eh bien, leur identité est devenue celle d'un orphelin, d'un esclave. Ces croyances, nos croyances sont devenues mes faiblesses, mes erreurs me rendent indigne. Je ne suis plus digne de recevoir l'amour de Dieu. Et le problème quand on est dans ce paradigme de la punition, c'est qu'on va se mettre à traiter non seulement nous-mêmes de cette façon, mais aussi les autres. Et bien souvent, ça va se révéler quand on fait des erreurs. Il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que quand le Père nous regarde, il est dégoûté par nous. Il est dégoûté par notre péché. Alors c'est comme si on va dire, mais non, mais je vais me... On sait, il y a ce verset qui dit que quand Dieu nous voit, il voit Jésus. Mais c'est comme si on se cachait derrière Jésus. Et puis, il ne faut pas qu'on dépasse, parce que si Dieu, il nous voit vraiment, mais il est dégoûté, quoi. Et pourquoi on croit ça? Parce qu'au plus profond de nous, on pense qu'on mérite la punition. On pense qu'on mérite d'être séparé de Dieu, d'être déconnecté de lui quand on fait une erreur. Alors, je pense qu'on est tous un peu pareils. Quand on se plante, on a ce réflexe. Hop, je me cache. Je reste dans mon coin. Non, Seigneur, je ne vais pas te prier parce que vraiment, c'est le moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on se dit, ah non, 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 là, je peux vraiment pas passer du temps avec Dieu parce qu'après ce que j'ai fait, après ce que j'ai dit, mais alors, il ne doit vraiment pas avoir envie de passer du temps avec moi. Ou alors, il va vraiment falloir que je fasse plein d'efforts pour remonter à l'échelle, pour que je sois à nouveau proche de lui. On se met comme ça des pressions de fou en pensant que ce sont des efforts qui vont nous justifier et nous donner accès au Père. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et en fait, on apprend ça depuis qu'on est petit. Si vous avez des enfants, prennent des bonbons, hop, discretos, ils partent en courant dans leur chambre. Mais je leur dis toujours, maman, attention, à chaque fois qu'elle a eu des enfants, elle a eu une paire d'yeux qui a poussé. Donc là, je commence à en avoir pas mal. J'ai 4 paires d'yeux, j'ai des yeux partout. Non, je rigole. Mais en fait, du coup, ce qui va nous motiver à agir, et même ça, c'est dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans nos relations avec les autres, ça va être la peur de la punition. Je vais agir pour éviter d'être puni. Je vais agir pour éviter d'être déconnecté. Parce que j'ai peur. J'ai peur de ça. Et donc, on va adopter des stratégies pour ne pas être puni. Alors, généralement, il y a deux tendances. Soit on essaie d'être parfait et de se conformer. Quand on arrive dans un nouveau groupe de personnes, on va chercher inconsciemment, ok, ici, comment il faut que je sois pour être acceptée? Comment il faut que je sois pour rentrer dans le moule? Comment il faut que je sois pour ne pas être en déconnexion, mais être vraiment avec les autres? Et puis on va chercher toutes les règles auxquelles il va falloir qu'on obéisse. Ou alors, on est des rebelles. On se rebelle et on revendique notre rébellion, on l'assume. C'est moi qui fais mes propres règles, c'est moi qui décide, je ne vais pas me conformer. Et en fait, on est animé du désir de punir ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ceux qui nous manquent de respect, ceux qui échouent. Et alors là, on est confronté à ça tous les jours, à la maison, dans notre couple, au travail, dans toutes les relations dans lesquelles on va être. Parce que forcément, on est en relation les uns avec les autres, Dieu nous a créés pour être en relation les uns avec les autres, et l'amour, ça fait peur et ça fait mal. Mais c'est aussi une force extraordinaire, on en parlera après. Et ça aussi, c'est un sentiment humain. On déteste l'injustice, on ne supporte pas l'injustice. Et quand je subis une injustice, c'est comme si tout d'un coup, je m'octroie la légitimité de punir. Parce que j'ai été offensée, alors j'ai le droit de te punir. La punition, ça peut être une sentence, dans le cadre juridique, forte, mais ça peut être aussi... je ne vais pas t'adresser la parole. Ou alors, je vais t'éviter. Ou alors, je vais te faire payer. Tu m'as demandé pardon ? Ouais, mais attends, tu vas quand même payer pour ce que tu m'as fait. Parce que j'ai mal. Parce que j'ai besoin que cette injustice soit réparée. Et comme c'est moi qui ai subi les conséquences, alors c'est moi qui décide de ta punition. Et c'est moi qui décide de comment tu vas me réparer les dommages que tu m'as causés. Et je suis légitime pour te punir. Et en fait, la menace de la punition, ça devient une arme d'intimidation pour renforcer l'illusion que je peux te contrôler. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. C'est l'illusion que par la punition, je peux te contrôler. Et je vais t'intimider, te menacer jusqu'à ce que tu te soumettes à mon autorité. Jusqu'à ce que tu te soumettes à ce que moi, je crois qui est juste. Et en fait, je cherche l'auto-préservation. Je cherche à sauver ma peau à tout prix parce que j'ai peur. Et le pire, c'est que ça marche. Ça marche d'écraser les autres. Ça marche de les menacer pour qu'ils changent d'avis et pour qu'ils se soumettent à ce que moi, j'ai décidé qui est juste. Tu peux passer, Ben. Le problème avec ça, les amis, c'est que ce n'est pas le royaume de Dieu. Ni à la maison, ni au travail, ni à l'église. Et en fait, quand on utilise la peur comme un pouvoir spirituel pour intimider, pour manipuler, ce n'est pas le royaume. C'est de la manipulation, c'est de la sorcellerie même, d'utiliser la peur comme un pouvoir spirituel. Et notre mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'amener le ciel sur la terre, c'est d'amener le royaume de Dieu, mais on ne peut pas s'attendre à amener le royaume de Dieu dans notre environnement en utilisant la peur comme force spirituelle. Il y a des gens qui se convertissent parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. C'est la peur qui est à l'œuvre là. C'est pas le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la peur. La peur, c'est une arme du diable. 1 Jean 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Alors si la punition ne fait pas partie du royaume de Dieu, et s'il n'y a pas de punisseur au ciel, comment on peut justifier l'usage qu'on en a dans nos relations, dans notre culture, dans nos familles, dans l'Église? En fait, on a besoin d'être renouvelé dans notre mentalité d'enfant de Dieu et de renoncer à l'esprit de peur qui gouverne le monde. Ce qu'on l'a dit, hein, à la chute, il y a un changement de gouvernement, changement de mentalité. C'est l'esprit de peur et de honte qui gouverne. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à être renouvelés, à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Parce qu'on n'est plus sous l'autorité de cet esprit de peur. Et en fait, ça implique de nous de renoncer à collaborer avec l'esprit de peur. Et c'est difficile. Jésus, il a été très clair quant à son règne. Il est venu pour servir et offrir sa vie en sacrifice. Et il y a ce passage dans Luc 9 où Jésus et ses disciples, Jésus, il va bientôt être crucifié et il est en route pour Jérusalem. Et alors qu'il marche, il envoie ses disciples dans une bourgade en Samarie et il envoie des messagers en fait pour annoncer sa venue et pour trouver une place pour être hébergé. Et en fait, les Samaritains refusent l'hospitalité à Jésus. Et là, il y a Jacques et Jean qui s'écrient « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on envoie la foudre sur ces personnes parce qu'elles ne t'ont pas accueilli, parce qu'elles t'ont manqué de respect ?» Jésus se tourne vers eux, il les reprend. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. » C'est encore cette histoire d'esprit. Et Jésus dénonce cet esprit qui les anime. Parce que la seule réponse envers le manque de respect envers Jésus, c'est la punition. On va envoyer la foudre et le feu, comme au temps d'Élie. Alors, pour leur excuse, Jésus n'était pas encore mort. Donc on peut dire qu'ils n'étaient pas encore sous la nouvelle alliance. Mais nous le sommes. Nous le sommes. Jean 8, la femme adultère. Vous connaissez tous ce passage. Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Pas l'homme, hein, mais la femme. Elle est amenée à Jésus par les pharisiens, les spécialistes de la loi, qui lui disent « Alors, regarde la loi, Jésus, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'on va faire à cette femme ?» La seule issue pour elle, c'est la punition à mort par lapidation. C'est ça qu'il y a écrit dans la loi. Et Jésus, il arrive et il offre une autre voie. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que Jésus dit que le premier qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et en fait, il n'y a que lui qui peut. Il n'y a que lui qui est sans péché, qui a le droit, selon la loi, d'exercer la sentence sur cette femme. Parce que c'est le seul qui n'a pas péché. C'est le seul, il peut, il a le droit. Il a le droit de la punir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « Je ne te condamne pas. » Parce que Jésus n'est pas un punisseur. Le fils prodigue, dans Luc 15, le fils déshonore son père de façon outrageante. Mais le père lui donne ce qu'il demande. Et pourtant, le père, il sait ce qui va se passer. Il sait ce que le fils va faire de son argent. Il sait qu'il va se planter. Parce que nous, en tant que parents, on ferait ça. Honnêtement, je sais pas, moi, je dirais à mes filles, non, non, non. Attends, on prend un peu de maturité, là. Tu vas te planter, là. Mais le père le laisse libre. Et puis, une fois qu'il est parti, il le guette. Il l'attend. Et quand il revient, il court vers lui. Il l'accueille. Il le rétablit dans sa maison. Il lui fait une fête. Jésus révèle encore une fois le Père. Parce que Jésus, il est venu sur terre avec un seul but. Nous révéler le Père. Nous révéler celui, vous vous rappelez, qu'on ne pouvait plus voir parce qu'on voyait avec les lunettes de l'esprit de peur. Et Jésus, il est venu révéler le Père. Et c'est le Père que tout le monde attend et espère. Vous savez, souvent, enfin, quand ça ne va pas, voilà, dans la société, on se dit, bah, les gens espèrent que peut-être le prochain leader politique va amener un changement.
Il y a toujours cette espérance en la nouveauté. Il y a quelque chose qui va changer, enfin. Il va se passer quelque chose. On espère toujours un sauveur. Mais Jésus, il est venu révéler ce Père-là. Celui que tout le monde attend, celui que tout le monde espère. Presque parfois, c'est trop beau pour y croire. Et pourtant, Jésus est venu le révéler. Et tu peux y croire. Alors, quand on peut lire ces histoires et justement se dire, non, mais ça c'est Jésus. Jésus, il est parfait, quoi. Et puis moi, dans ma vie, eh ben, je peux me demander, mais cette femme-là, il faut quand même qu'elle soit punie. Puis ce fils-là, après ce qu'il a fait, il faut quand même qu'il paye les conséquences de ses erreurs. Ça va arriver à quel moment? Après la fête, s'il lui fait la fête, puis après il va devoir travailler pour lui pour réparer tous les dommages qu'il a fait. Où est la punition? Parce que la punition, ça va leur faire comprendre. Ça va leur faire comprendre, puis au moins, ils ne vont pas recommencer derrière. Et nous aussi, on peut raisonner comme ça. Quand quelqu'un nous offense, vient nous demander pardon, que ce soit nos enfants, notre conjoint, une personne dans notre travail, et se dire, bon, ok, je te pardonne, j'accepte ton pardon, mais par contre, je vais te faire payer quand même un petit peu, parce que là, je les ai un peu là, et puis il faut que tu comprennes, et puis surtout, il faut que tu comprennes pour pas que tu recommences. Mais Jésus, il n'a pas révélé un Père qui agit comme ça envers nous. Jésus a dit à Nicodème, si tu veux voir le royaume, il faut que tu naisses de nouveau. On a besoin d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence pour entrer dans le royaume. Et dans ce royaume, il y a une seule règle, comme dans le jardin. Il y avait une seule règle, à nouveau. Et cette règle, dans la nouvelle alliance, c'est aimer. Matthieu 22, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour, c'est la voie royale. Là où la peur dit, je vais te sacrifier pour moi. Je te sacrifie pour m'auto-préserver. Je te punis pour que moi, je me sente mieux. L'amour va dire, je me sacrifie pour toi. C'est ce que Jésus a fait. Il y a un changement de paradigme qui s'opère. Parce que le royaume de Dieu, il fonctionne à l'inverse. Il vient bousculer tous nos raisonnements, tout ce qu'on pense établi. Ça doit marcher comme ça. Il y a tel problème, il faut telle solution. Non, le royaume de Dieu, il marche à l'envers. 1 Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et c'est parce qu'il m'a aimé que je peux l'aimer, que je peux aimer les autres. C'est parce que j'ai reçu son amour que je peux donner et que je peux transmettre son amour. C'est parce qu'il est mort pour moi que je deviens son fils, sa fille. Et le paradigme de la nouvelle alliance, il ressemble à ça. Mon identité, c'est que je suis fils, fille de Dieu. Mes croyances, en Jésus, je suis devenue un fils, une fille. Et je suis digne d'être aimée. Je suis digne d'appartenir. Je suis digne d'être en relation, en communion avec Dieu. Pas parce que j'ai fait, pas à cause de ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, pas à cause de mes réussites humaines, spirituelles, pas parce que je suis une bonne chrétienne, que je vais à l'église, que je prie. Non, parce qu'il m'a aimée le premier. Parce qu'il s'est donné pour moi, alors que nous étions encore pécheurs. Jésus est mort pour nous. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu qu'on vienne et dire, ok, bon, allez, toi tu mérites que je meure pour toi. Non, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Ça c'est dans Romains 5. Et notre motivation, maintenant, c'est l'amour. Alors ce qui nous pousse à agir, si c'est l'amour, on va rechercher la connexion. Même quand ça fait peur, parce que oui, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour, c'est un choix courageux, c'est un choix qui fait peur, c'est un choix où on va être vulnérable, c'est un choix où on va prendre le risque d'être blessé par l'autre. C'est un choix où on va pardonner, on va être amené à pardonner, même quand l'autre ne vient pas nous demander pardon, et peut-être il ne le fera jamais. Et le but ultime que je recherche, c'est la connexion. C'est pas je sauve ma peau, c'est non, je veux être connectée à toi. Et la personne, quand j'échoue, quand je fais une erreur, quand je dis quelque chose que j'aurais pas dû dire, la première personne vers qui je devrais courir, c'est mon père, comme le fils prodigue. Il m'attend. Il m'attend pas avec la punition, mais il m'attend. Et il n'y a que cette recherche de connexion qui va m'amener à la repentance. En Romains également, il est écrit, c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la peur de l'enfer, ce n'est pas la peur de la punition, c'est sa bonté qui te pousse à la repentance. La priorité numéro un de Dieu, c'est la réconciliation. C'est pour ça. Tout le plan, à chaque fois que tu lis la Bible, rappelle-toi ça, avec ces lunettes-là. Qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi il a envoyé son fils? Pourquoi il a fait tout ça? Pour être, qu'on soit réconcilié avec lui. Il veut être réconcilié avec nous. Et il a pourvu pour qu'on puisse vivre cette réconciliation. Alors ma question ce matin, c'est où est-ce que tu en es avec la punition? Où est-ce qu'on en est avec la punition? Est-ce que oui, on connaît Dieu, on a bénéficié de sa grâce quand on s'est tourné vers lui, mais c'est encore quelque chose que j'utilise dans ma vie, dans mes relations, dans mes pensées. Et il y a besoin d'une repentance. Repentance, ça veut dire changer de direction. Ça veut dire, je choisis de plus poursuivre la voie sur laquelle j'étais, mais je choisis la voie de Dieu. Est-ce que je me soumets à ce que je sens le Saint-Esprit me dire ou est-ce que je résiste? Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse libres. Il nous laisse libres. Il te laisse libre ce matin de continuer ou de te tourner vers lui. Et alors qu'il y a la repentance, elle nous conduit vers le Père. Elle nous permet de nous réconcilier avec le Père. Et alors qu'on est réconcilié avec le Père, il nous restaure et nous transforme. La repentance amène la réconciliation et amène la restauration. Alors ce matin, on va s'arrêter là, mais je voulais prendre un temps simplement. Je vous invite à fermer les yeux.